Bonjour chers fidèles auditeurs de La Voix de l'Amérique. Merci de suivre votre santé, votre avenir. Vous êtes en compagnie de Nanit Talani. Cette rencontre hebdomadaire est consacrée au diabète de type 2, encore appelé diabète gras ou diabète de la maturité. C'est une maladie caractérisée par une hyperglycémie chronique, c'est-à-dire par un taux trop élevé de glucose ou du sucre dans le sang. Elle survient généralement chez les adultes avançant en âge et touche davantage les personnes obèses ou ayant un surplus de poids, mais pas seulement. D'ici 2030, il y aura plus de 600 millions de diabétiques, dont plus de 42 millions en Afrique. Actuellement, cette maladie touche plus de 5,7% de la population adulte sur ce continent. Pour en parler, nous inviterons Stéphane Besançon, biologiste, nutritionniste et directeur général de l'ONG Santé Diabète.
Aujourd'hui, l'Afrique est très très touchée. Il y a à peu près 5% de la population sur le continent qui est diabétique. Il fait plus de 30 millions de diabétiques avec un taux de mortalité très fort. Donc c'est aujourd'hui vraiment un fléau pour le continent africain.
Après cet entretien, nous vous proposerons en seconde partie Carnet de santé présenté par Linor Moudou.
Coup d'œil sur l'actualité.
Voici le moment de suivre notre entretien avec Stéphane Besançon, directeur général de l'ONG Santé Diabète. Merci Monsieur Besançon d'avoir accepté notre invitation. Nous allons parler du diabète de type 2. C'est quoi le diabète de type 2?
Et le diabète, en fait, c'est un excès permanent de sucre dans le sang, c'est-à-dire que le taux de sucre dans le sang est en permanence trop élevé, et ça de manière chronique. C'est une maladie qui ne se guérit pas, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a ce taux de sucre dans le sang trop élevé en permanence, on diagnostique la maladie qui s'appelle le diabète. Elle pourrait être traitée, le taux de sucre peut être équilibré, mais il n'y aura pas de guérison de la maladie, c'est donc une maladie chronique à vie.
Quels sont les symptômes du diabète de type 2?
Le problème de ce type de diabète, c'est qu'il peut être silencieux pendant des années, c'est-à-dire qu'on peut mettre beaucoup de temps pour s'en rendre compte. Et ensuite, quand les symptômes arrivent, ça va être par exemple d'uriner fréquemment, de se lever la nuit plusieurs fois pour uriner, de boire beaucoup, d'avoir une fatigue qui est souvent excessive. Et dans certains cas, mais ça c'est pas tous les cas, il peut y avoir aussi une perte de poids. Voilà, donc ce qu'on appelle polyurie, polydipsie, c'est-à-dire boire beaucoup, uriner beaucoup, fatigue importante, ça c'est vraiment les symptômes cardinaux du diabète.
Quelles peuvent être les causes de ce diabète?
Pour le diabète de type 2, les causes, elles sont à la fois génétiques, une prédisposition génétique, si on a des parents diabétiques, etc. Mais ça, ça suffit pas, c'est pas une maladie génétique. C'est-à-dire que c'est pas le fait d'avoir des parents diabétiques qui fait qu'on devient diabétique. Sur cette prédisposition, il faut qu'il y ait des facteurs qu'on appelle environnementaux liés au mode de vie qui viennent compliquer la situation. Alors ça va être le manque d'activité physique, ça va être une alimentation déséquilibrée, trop grasse, trop sucrée, ça va être aussi un surpoids, une obésité. Tout ça cumulé vont faire un risque accru. Plus ces facteurs de risque sont là, plus le risque du diabète est accru.
Comment est-ce que se fait le diagnostic du diabète de type 2? Est-ce qu'on peut facilement le diagnostiquer à la maison ou bien il faut aller vers un médecin?
D'abord, il faut mesurer la glycémie, c'est-à-dire le taux de sucre dans le sang. Cette glycémie, il y a une norme. Si cette norme est dépassée, deux fois, il faut faire deux fois la mesure pour être sûr, et bien là, on parle de diabète. Le mieux, c'est de faire une glycémie veineuse, c'est-à-dire à partir du sang qui est prélevé directement dans la veine. Donc ça, c'est ce qui va être fait dans un laboratoire. Ça, c'est vraiment le mieux pour être sûr. Et après, il existe aujourd'hui des petits lecteurs de glycémie portables avec qui on peut faire aussi cette mesure. Mais quand même, le mieux, ça reste un diagnostic en laboratoire pour être sûr du résultat, parce que c'est quand même le résultat pour dire si on a une maladie ou pas à vie. Donc c'est quand même mieux d'avoir le meilleur diagnostic possible.
Quelle est l'ampleur du diabète 2 en Afrique?
D'abord, il faut commencer, j'allais dire, par le monde. Dans le monde, c'est une épidémie colossale, parce qu'aujourd'hui, on a quasiment un adulte sur 10 qui est diabétique dans le monde, avec des prévalences qui augmentent de manière exponentielle, et on a souvent tendance à penser que c'est vraiment un phénomène qui est lié aux pays du Nord, des pays occidentaux, aux États-Unis, à l'Europe, mais aujourd'hui, l'Afrique est très très touchée. Il y a à peu près 5% de la population sur le continent qui est diabétique, ce qui fait plus de 30 millions de diabétiques, avec un taux de mortalité très fort, donc c'est aujourd'hui vraiment un fléau pour le continent africain, surtout que c'est une maladie très très chère, avec des complications très invalidantes. Donc c'est vraiment un problème de santé publique majeur qui est sous-pris en compte à la fois par les partenaires au développement et par les autorités locales dans de très nombreux pays.
Quelles sont les complications que le diabète de type 2 peut entraîner chez le patient?
Alors, les complications, il y en a beaucoup. Elles sont souvent assez graves. Alors, ça peut être des complications des reins qui vont amener à la dialyse, des yeux qui vont amener à la cécité, c'est-à-dire devenir aveugle. L'amputation aussi, de nombreuses amputations avec ce qu'on appelle le pied diabétique. Ça peut être aussi des surmortalités par maladies cardiovasculaires, AVC, etc., accidents vasculaires. Il y a toute une palette de complications très graves, très coûteuses et très invalidantes.
Est-ce que le diabète de type 2 est une maladie traitable et guérissable?
Guérissable, non. On ne peut pas guérir du diabète. Aujourd'hui, c'est important de le dire. Beaucoup de gens se disent que guérisseur du diabète, ça n'existe pas aujourd'hui. Maintenant, elle est traitable. Elle peut être très, très bien traitée à condition de changer de mode de vie, c'est-à-dire faire plus d'activité physique, aussi changer son alimentation, manger moins gras, moins sucré, moins salé. Et aussi, en parallèle de ça, prendre les traitements qu'il faut. Ça peut être soit des antidiabétiques oraux, c'est des cachets, soit de l'insuline qu'on va s'injecter tous les jours.
Est-ce qu'à côté des causes du diabète de type 2, il y a d'autres facteurs qui peuvent élever le risque de développer cette maladie?
Ce que je disais précédemment, c'est-à-dire les facteurs environnementaux, le mode de vie, la sédentarité, l'alimentation, sont vraiment des facteurs qui vont augmenter très fortement, comme le surpoids et l'obésité, le risque de diabète. Et si on les multiplie et qu'on les coordonne ensemble, on va vraiment augmenter très fortement le risque de diabète.
Est-ce qu'il y a des moyens qui peuvent permettre d'éviter de développer le diabète de type 2? C'est une maladie qu'on peut prévenir?
Tout à fait. C'est une maladie qui se prévient très, très bien. Et justement, en travaillant sur ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire en augmentant l'activité physique, en suivant les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, qui disent qu'il faut faire à peu près 5 fois par semaine 30 minutes d'activité physique. C'est important aussi que les auditeurs comprennent bien que c'est de l'activité physique, pas forcément du sport. Marcher, simplement, ça suffit 30 minutes par jour. C'est changer son alimentation. Alors, quand je dis changer, c'est pas tout changer. C'est de manger moins gras, moins salé, moins sucré, de manger plus de fruits et légumes, de manger plus de fibres, donc vraiment des changements, la diversité alimentaire, manger moins aussi en quantité, et puis d'éviter de développer un surpoids et une obésité, car c'est vraiment là aussi où on va se lier les facteurs de risque du diabète. Donc si on a un mode de vie sain, il y a très peu de chances de développer un diabète.
Est-ce facile aux populations africaines d'accéder au traitement du diabète de type 2?
Si c'est des antidiabétiques oraux, des cachets, donc ça c'est relativement peu cher en générique aujourd'hui. Ça peut rester difficile, mais c'est quand même de plus en plus abordable. Maintenant, le gros problème d'accessibilité se pose vraiment pour l'insuline, cette hormone qu'on doit s'injecter, où là, les tarifs sont vraiment prohibitifs. Au Mali, aujourd'hui, par exemple, on estime qu'une année d'insuline, ça représente 17% des revenus d'un foyer. Donc, c'est vraiment très, très cher et il faut travailler très fort pour travailler avec les laboratoires pharmaceutiques aujourd'hui pour que ces prix baissent de manière drastique pour que un maximum de gens puissent y avoir accès.
On sait que l'insuline coûte cher et n'est pas à la portée de tout le monde. Mais est-ce qu'il y a des alternatives pour les patients qui sont incapables justement de s'acheter de l'insuline à cause de l'insuffisance de leurs moyens financiers?
Non, alors, si on a besoin d'insuline parce que le pancréas ne fabrique plus d'insuline et on doit s'en injecter absolument, il n'y a pas d'alternative, on doit prendre de l'insuline. Maintenant, pour les antidiabétiques oraux, ça va dépendre un peu du type, enfin, comment la glycémie évolue. Et il y a certains patients qui peuvent rester diabétiques de type 2 uniquement sous un régime alimentaire et une activité physique. Avec ça, ils régulent leur taux de sucre. Et ça, c'est vraiment, il faut un avis médical pour ça. C'est pas quelque chose qui peut se faire par le patient, qui peut se faire sur un simple conseil. Il faut vraiment un avis d'un spécialiste qui va dire quelle molécule prendre et est-ce qu'il est possible de prendre uniquement, par exemple, un régime alimentaire avec de l'activité physique.
Quelle aide les autorités, les pouvoirs publics peuvent apporter aux populations les plus précaires, aux malades pauvres qui ne peuvent pas s'offrir un traitement anti-diabète?
Alors oui, la première chose, c'est vraiment là, dans beaucoup de pays aujourd'hui en Afrique, il y a une discussion sur la couverture sanitaire universelle, c'est-à-dire une sécurité sociale pour tout le monde. Et déjà, il faut absolument que les autorités pensent à mettre ces maladies-là et ces traitements-là dans ces couvertures, parce que là, déjà, ce serait pour les populations un gain immense. Ça, c'est la première chose. Et après, la deuxième chose, c'est pour vraiment les populations les plus précaires et les plus pauvres, eh ben, l'idée, ce serait d'aller vers du subventionnement, voire de la gratuité pour ces types de traitements.
Est-ce à cause de la difficulté pour beaucoup de malades à se procurer de l'insuline que le combat contre le diabète demeure si difficile?
Oui, c'est un axe central. C'est pas le seul, parce que qui dit de l'insuline, il faut aussi des bandelettes pour mesurer la glycémie, il faut aussi des seringues pour s'injecter l'insuline, il faut aussi des moyens pour manger correctement. Donc c'est quand même un ensemble de choses, mais l'insuline reste quand même pour une partie des patients vraiment une problématique majeure. Enfin, l'accès à l'insuline, je veux dire pas l'insuline en elle-même, mais l'accès à l'insuline, c'est vraiment une problématique majeure.
Est-il facile de vivre avec le diabète et de mener une vie normale au quotidien?
Si on arrive à pas avoir de complications, on arrive à bien suivre son traitement, oui, c'est tout à fait possible. Maintenant, il y a certains patients qui ont des complications. Donc, si vous avez, par exemple, un problème rénal, c'est beaucoup plus compliqué si vous devez être dialysé. Mais tant qu'on n'a pas de complications, qu'on fait bonne activité physique, qu'on mange bien, qu'on prend bien son traitement correctement, là, beaucoup de patients vivent tout à fait normalement.
Quel conseil pouvez-vous donner à une personne qui souffre du diabète de type 2? Un conseil pour avoir une vie normale?
Juste ce que je disais précédemment, c'est-à-dire de faire au moins 30 minutes d'activité physique par jour, modérée, d'avoir un régime alimentaire le plus diversifié et le plus sain possible, et à côté de ça, de bien prendre régulièrement, de ne pas arrêter, de prendre le traitement qui est donné par le médecin. C'est les trois conseils vraiment qui permettent d'avoir une vie tout à fait normale.
Et la famille, les amis proches, est-ce qu'ils peuvent faire quelque chose pour aider le diabétique?
Oui, ils peuvent l'aider psychologiquement déjà, parce que c'est une maladie chronique, donc c'est très compliqué de vivre avec une maladie toute sa vie, le comprendre, l'aider s'il veut faire des choix alimentaires différents, l'aider s'il a besoin de faire de l'activité physique, et puis l'aider au quotidien s'il a des difficultés à prendre ses médicaments, etc. C'est vraiment un accompagnement du quotidien que le diabétique a besoin, avec une grande compréhension de la famille, pour comprendre que la personne a besoin d'être accompagnée au quotidien pour essayer de vivre le mieux possible.
Dans quelle mesure les ONG peuvent-elles accompagner les diabétiques dans leur combat contre la maladie? Est-ce que les ONG peuvent aussi faire quelque chose pour aider les diabétiques?
Bah oui, nous on est un bon exemple. Moi je dirige une ONG qui s'appelle Santé Diabète, qui est spécialisée sur le diabète en Afrique. On travaille à la fois côté système de santé et pour essayer de le renforcer, de le rendre le meilleur possible pour les patients. Et on travaille justement aussi avec les patients pour essayer de renforcer l'accès à une éducation thérapeutique, à une éducation à la maladie la plus forte possible et tout l'accompagnement nécessaire pour essayer de mener la vie la meilleure possible.
Au niveau de santé diabète, comment est-ce que vous faites pour retrouver les malades?
On travaille en lien très étroit avec les hôpitaux et les centres de santé. Et donc, c'est à partir des structures médicales où les patients sont soignés qu'on arrive à travailler avec eux. Il y a aussi, on organise aussi beaucoup de dépistages du diabète. À partir des dépistages, on peut là rentrer en contact avec les diabétiques.
Est-ce que vous rencontrez aussi du succès dans tout ce que vous entreprenez pour aider les diabétiques?
Oui, on a des projets qui marchent très très bien. Maintenant, le besoin est tellement immense qu'il faudrait qu'il y ait beaucoup de santé diabète pour soulager beaucoup plus de malades, parce qu'on fait une partie du travail et on fait que ce qu'on peut faire, et les besoins sont vraiment immenses. Et le grand malheur aujourd'hui, c'est que peu de partenaires techniques et financiers, très peu d'ONG travaillent sur cette problématique en pensant que c'est pas du tout un problème en Afrique. C'est encore des idées reçues que le diabète ne touche pas les Africains, et du coup les besoins sont tellement immenses que nous on essaye de faire ce qu'on peut, mais il reste encore beaucoup de chemin.
Dans quel pays l'ONG Santé Diabète est-elle présente? Juste au Mali ou dans d'autres pays d'Afrique aussi?
Alors, on est présent au Mali, au Burkina Faso, on est présent en Union des Comores, donc dans l'océan Indien. Ça, c'est avec des délégations permanentes, et on appuie aussi régulièrement différents gouvernements, différents pays dans la mise en place de leur politique nationale, ou alors dans l'appui à la mise en place de leurs associations de patients, etc., etc., sur des besoins particuliers liés à la prise en charge du diabète dans le pays.
Merci, monsieur Besançon. Pensez-vous qu'il soit possible un jour de remporter le combat contre le diabète?
Dans l'état aujourd'hui, s'il n'y a pas une mobilisation internationale, non, ça va être très compliqué. Maintenant, si les gens prennent conscience, les décideurs politiques des pays, les bailleurs de fonds, etc., que c'est vraiment une urgence, que les gens souffrent de ça, sont en train de mourir à grande quantité de cette maladie, oui, il y a quelque chose qui peut être possible à faire, mais c'est pour ça que notre ONG fait énormément de plaidoyer aujourd'hui pour que la problématique du diabète en Afrique soit reconnue à sa juste mesure et, vu l'ampleur qu'elle a, à sa juste valeur.
Merci, monsieur Besançon, d'avoir été notre invité. VOA Afrique, votre santé, votre avenir.
Votre santé, votre avenir, un magazine sur votre bien-être. Vous avez des questions sur votre santé? Vous voulez prévenir vos maladies, les soigner à temps?
Quelle alimentation adopter pour une vie saine? Comment bénéficier des programmes initiés par vos gouvernements ou des ONG dans vos pays?
Suivez votre santé, votre avenir sur VOA Afrique.
Samedi à 8h30, temps universel.
Votre santé, c'est votre avenir.
C'était notre discussion avec Stéphane Besançon, directeur général de l'ONG Santé Diabète. Maintenant, place à Carnet de Santé, présenté par Lénor Moudou.
Cette semaine, dans Carnet de Santé, un regard sur des efforts en cours en RDC afin de diminuer le taux de naissance prématurée. Que manger durant la grossesse pour une bonne santé, mère et enfant? On en parle. Être exposé au froid peut-il nous rendre malades? Un expert nous en dit plus. Faut-il frapper les enfants pour bien les élever? Vos réactions dans notre rubrique « À votre avis ». Enfin, un chiot robotisé pourrait devenir le nouvel animal de compagnie pour les personnes qui souffrent d'Alzheimer. C'est dans cette édition de Carnet de santé. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Carnet de santé. Environ 15 millions de bébés prématurés naissent chaque année dans le monde, selon l'Organisation mondiale de la santé. Un bébé est considéré comme prématuré quand il naît avant la 37e semaine de grossesse. Plus de 60% des naissances prématurées surviennent en Afrique et en Asie du Sud. En République démocratique du Congo, certaines femmes ignorent encore les causes de ces naissances prématurées, ce qui augmente les nombres de décès dans ce pays d'Afrique centrale. Reportage aux cliniques universitaires de Kinshasa avec l'agence JUCA Africa.
La République démocratique du Congo est l'un des pays africains où le risque de décès néonatal est le plus élevé. Sur 1000 enfants qui naissent, environ 158 meurent chaque jour avec essentiellement pour cause, selon les pédiatres, la prématurité. Au bloc de pédiatrie et néonatologie des cliniques universitaires de Kinshasa, cette mère a donné naissance à deux jumeaux prématurés qui pesaient 900 grammes chacun à la naissance. Malgré ces multiples naissances, elle ignore les facteurs de risque causant une naissance prématurée.
Je suis allée à la consultation et là, les médecins m'ont prévenue d'un accouchement prématuré. C'était parce que j'avais eu beaucoup d'accouchements avant, mon utérus était affaibli et que ma grossesse ne pouvait pas arriver à terme. La grossesse devait durer au plus 7 mois. C'est ainsi que j'ai accouché d'un prématuré. Deuxièmement, j'avais aussi trop travaillé pendant ma grossesse parce que je n'avais personne pour m'aider.
Les causes de naissance prématurée sont nombreuses. Certaines sont évitables. Il y a aujourd'hui urgence à tenir compte des causes de la prématurité. Docteur Thérèse Bisselélé est chef du service de pédiatrie et néonatologie aux cliniques universitaires de Kinshasa. Pour elle, si les causes des naissances prématurées sont identifiées, les femmes peuvent bien les éviter.
Alors, les causes de prématurées, de l'accouchement prématuré, nous pouvons retenir les infections, le paludisme, les infections urinaires, génitales. Nous pouvons retenir la pathologie de la mère, notamment la pré-éclampsie, lorsque la tension de la mère est très élevée pendant la grossesse, avec la présence des protéines dans les urines. Ça peut être une cause de pré-éclampsie. Ça peut être un travail maternel très difficile, ou bien les âges extrêmes des mères. Une mère très jeune, moins de 15 ans, ou au-delà de 35 ans.
Autres facteurs qui peuvent conduire à une naissance prématurée, les infections urinaires, celles du col de l'utérus ou du vagin, la béance du col ou encore un choc violent sur l'utérus. Les femmes congolaises sont maintenant informées. Francis Kabuya, Kinshasa, VOA Afrique.
Une étude menée par des chercheurs de l'Université d'Adélaïde en Australie montre que les femmes qui n'ont pas une bonne alimentation avant de tomber enceinte ont environ 50% plus de chances d'avoir un accouchement prématuré par rapport à celles qui ont un régime alimentaire sain. Selon les experts, la nutrition est un facteur clé durant la grossesse afin que les mamans et leurs bébés soient en bonne santé. Pour en savoir davantage sur la grossesse et l'alimentation, nous joignons par Skype à Kinshasa la nutritionniste Christelle Bouzangou. Madame Bouzangou, merci de nous rejoindre. Tout d'abord, quelle est votre réaction sur cette étude qui fait le lien entre une mauvaise alimentation avant la grossesse et la possibilité d'un accouchement prématuré?
Alors, une femme, lorsqu'elle est en âge de procréation, et qu'elle est exposée au problème de la mauvaise alimentation et elle est butée d'une et elle tombe enceinte, elle est exposée à des sérieux problèmes d'accoucher prématurément, ou soit si elle a peu de chances, elle peut ne pas tomber enceinte, parce que il y a beaucoup d'études qui prouvent qu'il y a beaucoup d'aliments nutritifs qui entrent dans la composition des hormones de production. Alors, lorsque déjà cette femme en âge de procréation ne se nourrit pas parfaitement bien, elle est exposée à ces problèmes. Et lorsque cette grossesse grandit et qu'il n'y a pas assez d'éléments pour la permettre à arriver à terme, alors il y a beaucoup de chances qu'elle puisse mettre au monde
un bébé prématuré. D'accord. Donc, Madame Bozongo, quels sont les aliments de façon générale qui sont nécessaires pour une femme enceinte?
Alors, une femme enceinte doit avoir une alimentation équilibrée et très saine. Alors, lorsqu'on parle d'aliments équilibrés et sains, elle doit varier son alimentation, tout en respectant les six groupes d'aliments qui sont le lait et les produits laitiers, le jus, il y a l'eau de boisson. Il y a l'eau de le boisson de consommation. Elle doit aussi prendre les matières grasses.
Ok.
Donc, voilà. Alors, ouais.
D'accord.
Cette femme, on dit, la femme est bien colorée. Donc, elle doit varier son alimentation. Elle ne doit pas rester à prendre une même alimentation tout le jour. Elle doit varier son alimentation et que ses repas de chaque jour doivent être équilibrés. Elle doit prendre aussi. De 2 à 3 collations par jour, à part ces 3 repas principaux.
Oui.
Et ces collations, elle peut prendre même un verre de lait, ou soit 3 quarts de verre de yaourt, ou aussi elle peut prendre le compote de pommes. Donc voilà.
Et beaucoup de fruits et légumes, comme on entend souvent dans l'alimentation équilibrée de façon générale. Et donc, y a-t-il des aliments à éviter?
Oui, il y a des aliments que la femme doit éviter. Nous avons l'alcool et le tabac. Elle doit strictement éviter ça parce que l'alcool et le tabac causent beaucoup de problèmes en ce qui concerne la malformation chez le fœtus. Ça cause aussi des problèmes dans des malformations chez le fœtus, des problèmes des systèmes nerveux.
Oui.
Aussi, ça peut être à la base de des avortements aussi de naissances prématurées.
Donc,
elle doit éviter l'alcool et le tabac. Oui, la femme enceinte doit éviter aussi des aliments qui sont riches en acides oxalates. Donc, par exemple, l'oseille, parce que ça ne permet pas le calcium à être absorbé, alors que le nourrisson a beaucoup plus besoin de calcium. Elle doit éviter aussi les aliments constipants, parce que ça, surtout lorsqu'elle est vers le 3 derniers mois, parce que les aliments constipants, ça ne la permet pas de faire son sel facilement et ce n'est pas bien pour le col de l'utérus.
D'accord. Donc, voilà, nous allons prendre les questions de nos téléspectateurs. Sur Facebook, nous avons une question. Quelles sont les conséquences sur la santé d'une femme enceinte qui ne mange pas bien?
Alors, il y a beaucoup de conséquences, que ce soit chez la femme elle-même et chez l'enfant. Parce que sans les éléments nutritifs, l'enfant ne peut pas grandir. Son système nerveux ne va pas se former. L'enfant aura des malformations parce qu'il y aura carence en calcium et ses os ne vont pas se former. Et cet enfant aura dans le sein de sa mère. Et chez la et le problème énergétique, une baisse énergétique tout au long du jour, elle ne sera pas forte. Et il y a beaucoup de risques d'avortement chez une femme qui ne se nourrit pas bien durant la grossesse. Et il y a beaucoup de risques aussi de naissance prématurée parce qu'elle ne va pas supporter le poids de la grossesse jusqu'à la fin vu qu'elle n'a pas assez d'énergie. Et cette femme aussi sera exposée aussi à des problèmes de déséquilibre hormonal. Donc voilà un peu... Elle exposa beaucoup de choses. Une alimentation bien équilibrée durant la grossesse.
D'accord. Voilà. Ok. C'est bien compris, Madame Bozongo. Merci de nous avoir rejoints. Christelle Bozongo est nutritionniste à Kinshasa. Peut-on tomber malade simplement parce qu'on est exposé au froid? On pense souvent que lorsqu'on a froid, on peut attraper un rhume, développer une fièvre ou avoir une toux. Par exemple, peut-on tomber malade lorsqu'on est assis dans une pièce trop climatisée ou lorsqu'il fait très froid dehors? Nous avons posé la question au docteur Mohamed Nabi, infirmier praticien spécialisé en Virginie.
Avoir froid ou être dans un endroit climatisé, être dehors quand il fait froid, cela ne vous donne pas un rhume. Cela ne vous donne pas un rhume. Le rhume est généralement causé par un virus. Nous l'appelons rhinovirus. Le fait d'être dehors alors qu'il fait froid ne cause pas un rhume. L'une de ces causes est l'exposition elle-même. Il y a tellement de virus autour de vous. Si vous les touchez, comme sur un bureau ou quelque chose contaminé, cela peut vous donner un rhume. La deuxième cause est très fréquente chez les personnes âgées et les enfants plus jeunes. C'est dans le cas d'une personne dont le système immunitaire est compromis. Cela signifie que son système immunitaire est affaibli, car habituellement lorsque vous attrapez un rhume, c'est que le système immunitaire ne peut pas le combattre.
Selon les experts, la fessée et les autres punitions corporelles, par exemple gifler ou pincer, ont des effets négatifs sur le développement psychologique et social d'un enfant. Aucune étude n'a d'ailleurs démontré qu'il existait des effets positifs liés aux punitions corporelles. En 40 ans, 56 pays ont interdit la fessée, notamment la Suède en premier et la France ce mois-ci. En Afrique, 6 pays ont aboli les châtiments corporels contre les enfants, y compris la RDC, le Bénin et le Kenya. On dit que le chien est le meilleur ami de l'homme, mais pour de nombreuses personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et d'autres formes de démence, il est souvent difficile de prendre soin d'un chien ou d'un animal de compagnie. Bonne nouvelle, un nouveau chiot robotisé en cours de développement en Californie pourrait apporter une solution.
Tombo est un chiot pas comme les autres. Cet animal de compagnie est un robot. Il réagit au toucher et aux commandes vocales et remue même la queue.
Tout d'abord, elle est couverte de capteurs tactiles. Elle peut sentir comment et où elle est touchée. Elle peut faire la différence entre un simple toucher, une caresse lente, un animal domestique vigoureux. Et lorsqu'on la tient, elle répond à la voix. Ainsi, les gens pourront donner leur nom au robot. Elle peut sentir qu'on la déplace.
Le chien robot est une idée de Tom Stevens, un entrepreneur basé en Californie qui a imaginé le concept après le diagnostic de la maladie d'Alzheimer chez sa mère en 2011. Selon lui, ce chien apporte un accompagnement et un amour inconditionnel à ceux qui sont incapables de s'occuper d'un véritable animal, notamment les personnes qui souffrent d'Alzheimer ou autres formes de démence. Créer un robot qui ressemble à un vrai animal et se déplace de manière réaliste présentait le plus grand défi pour Stevens, défi qu'il pense avoir pu relever. L'entrepreneur espère que la technologie va révolutionner la manière dont les personnes âgées et atteintes de démence seront prises en charge dans l'avenir.
Dans notre prochaine édition de Carnet de santé, nous parlerons des problèmes de la prostate et comment les prévenir. Si vous avez des questions ou pour toutes vos réactions, rejoignez-nous sur la page Facebook de VOA Afrique ainsi que sur notre site web voaafrique.com. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter @linormoudou. C'est la fin de cette édition de Carnet de santé. Merci de nous avoir suivis. D'ici la semaine prochaine, portez-vous bien et à très bientôt.
Washington Forum, votre décryptage hebdomadaire de l'actualité africaine, américaine et internationale sur VOA Afrique.
30 minutes d'échange et d'analyse sur d'importants événements, économie, politique, sport, culture, nos invités répondent aux questions. Washington Forum s'est allé au-delà de la nouvelle, une perspective sur des questions importantes à partir de la capitale américaine. De Dakar à Kinshasa, en passant par Le Caire, New York, Paris et Londres, nous sommes en direct chaque jeudi à 19h temps universel.
Washington Forum sur VOA Afrique et nos chaînes partenaires.
Nous voici arrivés à la fin de Votre santé, votre avenir qui était consacré au diabète de type 2. Nous étions en compagnie de Stéphane Besançon, biologiste, nutritionniste et directeur général de l'ONG Santé Diabète. Ensuite, nous vous avons proposé Carnet de santé présenté par Linor Moudou. Ce rendez-vous santé a été réalisé grâce au concours de Cheikh Thierrot à la réalisation d'Anne Crafton. Devant ce microphone, Nanit Talani. Continuez d'écouter VOA Afrique et surtout, n'oubliez pas de prendre soin de votre santé, car votre santé, c'est votre avenir.
C'était Votre Santé, Votre Avenir, une production de VOA Afrique. Pour vos commentaires, vos questions ou vos témoignages, retrouvez-nous sur voafrique.com ou sur notre page Facebook VOA Afrique.
VOA Afrique.